raconte. Christophe Ondelatte.
Louis Poirson, surnommé le tailleur de pierre, est un violeur et tueur en série. Dans les années 80 et 90, il a été condamné au total pour 4 meurtres de femmes, 8 viols et 5 agressions sexuelles. Et quand on lui a demandé pourquoi, eh bien il se contentait de dire « elle m'énervait ». Ouvrons ensemble la côte B du tueur en série Louis Poirson.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelatte raconte.
Côte B sur Europe 1.
En 1985, Louis Poirson est condamné à 15 ans de prison pour 7 viols et 5 agressions sexuelles commis dans la région de Strasbourg. Il bénéficie d'une libération conditionnelle au bout de 9 ans. Et 4 ans plus tard, le voilà à nouveau en garde à vue pour l'enlèvement d'une jeune femme. Et très vite, deux gendarmes de la section de recherche de Versailles, Thierry Aspinori et Daniel Roussette, pense pouvoir lui coller un meurtre sur le dos. Celui d'une vieille dame de 79 ans, Charlotte Berson, retrouvée nue dans un champ dans le Val d'Oise.
Lorsqu'on a construit la première garde à vue concernant Madame Berson avec Thierry, on était loin de se douter qu'on avait certainement affaire à un tueur en série.
Commence ce 19 mai 2000 par la découverte d'une femme ligotée sur le lieu de travail de Louis Poirson. Le tailleur de pierre avait enfermé sa proie dans l'un des bâtiments de son entreprise qui borde l'autoroute A13. C'est sa patronne qui la découvrira. Cette femme séquestrée peut aujourd'hui se considérer comme une miraculée.
En mai 2000, la brigade de gendarmerie de Bonnières-sur-Seine va nous appeler pour dire « Tiens, il y a peut-être quelqu'un d'intéressant pour vous. Nous venons de mettre en garde à vue Louis Poirson qui vient de faire un enlèvement séquestration et il nous explique tout cela. »
Commandant Daniel Roussette, section de recherche de Versailles.
Bien sûr, nous-mêmes, nous sommes très intéressés par ce rapprochement et nous nous rendons à la gendarmerie de Bonnières-sur-Seine afin d'étudier le dossier, afin de voir à qui on avait affaire. Ce qui nous interpelle également concernant Louis Poirson, c'est qu'il a un lourd passé judiciaire. Il a été condamné en 1983 pour une dizaine de viols dans la région de Strasbourg et il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle à l'époque. Il est sorti de prison en 1994. Mais il nous fait l'effet de quelqu'un effectivement de rustre, d'assez costaud. C'est quelqu'un qui était tailleur de pierre. Il taillait dans le marbre, dans la pierre. Il était assez costaud, assez impressionnant. C'est quelqu'un de... Quand on est face à lui, c'est vrai qu'il en impose.
Face aux gendarmes, Louis Poirson consent à s'expliquer. Car avant de mal tourner, il avait un rêve, devenir l'un des leurs.
C'est vrai qu'on a ressenti qu'il respectait notre fonction, qu'il respectait nos grades, qu'il respectait notre qualité. Louis Poirson, le côté militaire, on le voyait qu'il voulait être militaire, puisqu'on a trouvé des photos chez lui, où il est en treillis Rangers, en train de se prendre en photo avec les couteaux à la bandoulière. On sent que le côté militaire chez lui, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, il signait JR, John Rambo.
Vous savez, mon adjudant, moi j'adore Stallone. C'est mon héros, le gars. Après le service militaire, j'ai pas pu continuer dans l'armée. Mais je voulais, hein, pourtant. Je me suis bousillé le genou et j'ai pas pu aller chez les parents. J'en rêvais. Je lui ressemble un peu à Rambo. Parce que Rambo, c'est un mec qui veut reprendre du service. Comme moi, quoi.
Bah, lorsqu'il vous sort ça, vous vous dites, mais là, on sort de l'ordinaire. Il y a une grande surprise de notre part. On dit là, on a vraiment mis la main sur un prédateur. S'il pense ça, si c'est son héros préféré, est-ce que dans les actions qu'il a commises, les meurtres qu'il a commis, il n'y a pas un peu de ça, quoi? Est-ce qu'il partait pas aussi à la chasse aux femmes, à la chasse aux victimes? Le but de cette audition, c'est d'abord de lui faire parler de lui,
Et à un moment donné, lui faire comprendre que pour nous, il n'est pas étranger à la découverte de Madame Berson ou à l'endroit où on l'a découvert nue. Donc bien sûr, au départ, il va rester très courtois, il va répondre aux questions sur l'environnement. En gros, on l'a très vite compris avec lui, il ne parle que si on lui apporte des éléments. Et c'est ce qu'on a ressenti. C'est quand on pose la même question, il va y répondre. Mais lui, il va pas s'échapper forcément. Il va tenter au départ, mais très rapidement, on comprend que si on lui pose les bonnes questions, qu'on lui montre que ces questions, elles sont pas anodines et que sont le fruit d'un travail poussé et qu'il ne peut pas le contredire, il reconnaît les choses.
Dis-moi, Louis. Tu n'étais pas à Saint-Cyr-en-Arty, là où on a retrouvé Charlotte Berson?
Bah non, je vous dis.
C'est bizarre, ça. T'as pas fêté les 50 ans de ta femme là-bas?
Oui, ça, j'y étais.
Mais alors, Louis, tu veux rien nous dire d'autre?
Bah non.
Allez, Louis, on a l'ADN de la victime dans la voiture de ta femme. Ça serait dommage qu'elle s'est ennuyée, ta femme, non?
Bon, ok. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé.
Donc il va nous expliquer que le jour de la disparition de Madame Charlotte Berson, qu'il empruntait la côte des Méniles, que cette femme descendait lors de sa promenade habituelle, et qu'à un moment donné, il a voulu la prendre en stop, la ramener chez elle, et il l'a bloquée. Et en la bloquant, ça a énervé cette vieille femme. Elle a tapé sur son capot. Il est sorti de la voiture. Ils se sont, entre guillemets, insultés. Et là, du coup, ça l'a tellement énervé qu'il l'aurait poussée. Elle serait tombée en arrière et elle serait tombée sur une pierre et il la considérait pour morte. Il l'a chargée dans son coffre. Il l'a conduite à la ferme des Molières. Sur place, lorsqu'il a ouvert le coffre, il a eu la grande surprise de découvrir que cette femme n'était pas morte. Et d'ailleurs, elle lui a sauté dessus, elle l'a invectivée. Donc là, il s'est dit, je n'ai plus qu'une chose à faire. C'est malheureusement de l'étrangler. Donc il lui a fait une clé de bras, il l'a étouffée sur place, sur son lieu d'emploi, et rapidement elle en est morte. Il l'a déshabillée, il l'a remis dans son coffre, et ensuite il est allé sur place abandonner le corps. Alors Louis Poisson était une force de la nature. Il faut dire que sa clé de bras, je m'imagine qu'une clé de bras de sa part sur le cou d'une vieille femme, ça pourrait faire très rapide d'étouffer. D'ailleurs, au cours de la garde à vue, mon camarade, à un moment donné, il a voulu lui faire signer sa déposition et qu'il a vu Louis Poisson se lever avec le cône sur lequel il était attaché, qu'il a soulevé alors que ce cône était rempli de béton. Et là, ce jour-là, au moment de signer, il a levé ce plot qui devait peser certainement 20 kilos et il a signé comme ça sa feuille sans problème, alors que pour moi, vous, on n'aurait jamais pu faire en sorte de signer avec ça à bout de bras.
Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Bornstein et Coutenceau. Louis Poisson raconte les faits de manière très neutre, sans vibrato émotionnel apparent. L'autre n'est pas situé autrement que comme un persécuteur émotionnel. Il n'est jamais appréhendé pour lui-même, avec de façon significative une animosité latente du sexe opposé. L'altérité n'est pas vraiment appréhendée.
Après ses premiers aveux, on l'a raccompagné à la maison d'arrêt. Lorsqu'on était en route, je me retourne vers lui et je lui dis « C'est bon, tu as libéré ta conscience ?» Et là, de but en blanc, il me répond « Quelle conscience ?» On s'est regardé Thierry et moi, et là, on s'est rappelé que lors de la perquisition, on avait des bijoux non identifiés. On s'est dit, on se connaît avec Thierry, on s'est dit, là, on a affaire à quelqu'un qui en a commis d'autres. Donc, nous allons l'extraire de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy à nouveau, le placer en garde à vue et le conduire à la section de recherche de Paris. Donc, dès le début, en préambule, je lui dis « Louis, tu te rappelles la perquisition que nous avons effectuée chez toi ?» Il me dit « Oui. Tu te rappelles les bijoux que nous avons découverts ?» Oui. Et là, je lui fais « À qui appartiennent ces bijoux ?»
Ah oh ben, je sais pas, moi, ces bijoux.
C'est à qui, Louis ?
Bon, je les ai trouvés par hasard.
Non, Louis, c'est pas possible. Dis-nous.
Bon, c'est ma femme, Chantal, qui les a trouvés. On avait récupéré une vieille armoire, ils étaient dedans.
Non, Louis. Nous, on sait. Regarde la photo de cette femme, là. Regarde les bijoux. C'est les mêmes. Elle s'appelle Lucifane, cette dame. Tu la connais? Qu'est-ce que tu lui as fait à cette dame? Bon, je sais pas, moi. Tu sais, Louis, on va mettre ta femme en garde à vue. Elle va être un peu ennuyée. Oh non, 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 surtout pas, non. Bon, ok, je vais tout vous dire.
Là, il nous regarde, il fait. J'étais en train d'aller sur mon lieu de travail. Elle faisait du stop. Dès que je l'ai chargée, j'ai compris qu'elle parlait pas bien le français. Elle me disait, pas bon bus. Je comprenais pas. Moi, je lui ai demandé où elle voulait aller. Donc, elle me dit qu'elle veut aller un peu plus loin. Donc, je commence à la conduire. Et là, très rapidement, il dit pipi, pipi, pipi. Elle déclare à Louis Poisson qu'elle a envie d'uriner. Lui, il n'est pas assez rapide, apparemment, puisqu'elle urine sur son siège. Là, il s'arrête, il s'énerve, il lui explique que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Elle, elle comprend pas, il y a un échange. Et là encore, il va nous refaire remimer le même scénario, à savoir qu'il va pousser cette femme. Elle va tomber en arrière et elle va s'assommer. Là, il comprend qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle est inanimée. La difficulté avec Louis Poisson, c'est que pour lui, à chaque fois, ce sont des accidents. Jamais il ne voudra reconnaître que c'était des meurtres prémédités avec un mobile. Bien sûr, nous l'avons soupçonné d'avoir violé ses victimes avant de les avoir tuées. En revanche, tout cela, nous n'avons jamais pu le prouver. Pourquoi ? Parce que à chaque fois, les corps que nous avons découverts étaient tellement dégradés que les traces de viol ne pouvaient pas être décelées. Donc, lui se sortait dans ses aveux en disant bah non, mais moi je les ai tués de manière inintentionnelle, ce qu'on ne croit pas hein, vraiment, hein, puisque de toute façon il a quand même été poursuivi, mis en examen pour des faits d'homicide. Mais en tous les cas, lui, il a jamais voulu reconnaître que c'était il y avait un mobile derrière ces meurtres. Mais forcément, il y en avait un.
Bien que Poisson ait avoué deux meurtres de vieilles dames, les gendarmes ne le lâchent pas. Daniel Roussette et Thierry Aspinori ont la conviction qu'il en a tué d'autres. Ils s'intéressent notamment à une vieille affaire, le meurtre de Jeannine Villain, 67 ans, et de sa fille Monique, 44 ans, retrouvée massacrée dans un cimetière pour chiens de Douin, dans les Yvelines.
Lorsque on identifie le second meurtre de Madame Femme, là tout de suite, on s'est dit, oui, c'est la deuxième, mais c'est certainement pas la dernière. C'est pour cette raison qu'on est retourné voir les enquêteurs de la BR d'Évreux. À l'époque, on leur avait demandé, est-ce que vous, vous êtes saisi d'un homicide, de quelque chose dans le coin de Passy-sur-Eure ? Ils nous avaient déclaré qu'ils étaient saisis d'un double homicide au cimetière à Chien de Douin, mais que pour autant, il fallait pas qu'on s'y intéresse, puisqu'en fait, ils avaient un auteur qui était incarcéré. Et là encore, les enquêteurs vont être surpris, parce que Louis Poisson va reconnaître être l'auteur de ce double homicide au cimetière à Chien de Douin.
Septembre 95, alors que Louis Poisson vient de purger une peine de 15 ans pour viol, il croise dans le cimetière pour animaux de Douin, Jeannine et Monique, la mère et la fille. Sans raison valable, l'homme saccage des tombes, les deux femmes le surprennent, Louis Poisson prend peur, les agresse, les séquestre dans le coffre de leur voiture. Leurs corps, en partie calcinés, seront retrouvés à plusieurs kilomètres.
Il va expliquer que le jour où il était dans ce cimetière, il a rencontré ces deux femmes. Celles-ci ont menacé directement de dénoncer la gendarmerie. Il a dit non, non, ne dénoncez pas. Et c'est là que il les a menacés qu'un couteau. Il les a ficelés dans leur propre coffre et les a emmenés sur le lieu où elles ont été découvertes. L'une, il l'a étranglée avec la clé de bras habituelle. Et la seconde, il lui a fracassé le crâne, il me semble, à l'aide d'une pierre. Il a brûlé les corps. Ensuite, il est allé abandonner la voiture de ces dames auprès de la voie ferrée de Mantes-la-Jolie avant de rejoindre son domicile à pied.
Hé, Poisson, c'est pour toi. T'as rendez-vous avec ta psy. Tu vas pouvoir causer de toi. Hein. T'as la journée avec elle. Et tire-toi bien.
Quand j'ai reçu ma commission d'expert, j'étais à la fois je ne peux pas dire fière, mais presque, que le juge m'ait nommée. Et puis très inquiète de faire ce dossier, qui était un dosier monstrueux.
Michèle Agrapard-Delmas, experte psychologue.
Donc j'y suis allée un peu à reculons à cause de la difficulté du dossier, de la dangerosité de l'homme. J'avais lu le dossier. Et puis, je me suis trouvée face à un homme, j'ose pas dire attachant, parce que si on dit attachant, dans le cadre d'une expertise, ça prend tout de suite des proportions. Si vous voulez, quelqu'un qui était intéressant au plan psychologique, parce qu'il y avait beaucoup de choses à travailler, à analyser, à comprendre, avec des comportements tellement contradictoires, puis une espèce d'authenticité dans ce qu'il disait. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Puis il avait un côté hyper dangereux, récidiviste, mais à la fois un côté humain.
Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Bornstein et Coutançon. La personnalité de Louis Poirson révèle un sujet égocentré, assez solitaire, individualiste, plutôt indépendant et autonome sur le plan mental. Il existe une tonalité paranoïaque dans son rapport à l'autre, et la dimension égocentrée confine à la mégalomanie, deux pathologies problématiques.
Poirson m'a marqué. D'abord parce qu'il y avait une quantité inimaginable de victimes. J'ai pas vu tous les matins quelqu'un qui avait violé 5 ou 6 femmes et qui en avait tué au moins 4. C'est des dossiers quand même rarissimes. Donc déjà, la gravité du dossier, la multiplicité des victimes, et puis parce que ça a été une expertise rare. Avec une personnalité intelligente, mais frustre, pauvre, mais qui, du moins avec moi, a été d'une totale authenticité et sincérité. Peut-être parce que il m'a trouvé sympa. Peut-être parce que je suis une gentille grand-mère. Peut-être parce que ce jour-là, il était de bonne humeur et qu'il était content de sortir de sa cellule. Peut-être de trouver une écoute qui n'était pas une écoute, comment dirais-je, intrusive, agressive. Je suis gentille avec les tueurs. Je me mets jamais en danger.
Rapport d'expertise des docteurs Villon et Lemoine. Louis Poirson traduit une froideur, une difficulté certaine à exprimer ses émotions. Un thème récurrent apparaît, celui d'être victime de toutes sortes d'injustices. Louis Poirson se replie volontiers dans une sorte de solitude intérieure, vivant le monde qui l'entoure et les autres comme hostile.
Que vous avez rencontré à la maison d'arrêt d'Evreux. Le contact s'est très très bien passé, il a eu pas de soucis, il a pas été très bavard, hein. C'était pas quelqu'un de très causant, c'était plutôt un taiseux, monsieur Poirson.
Maître Guylaine Grimaud, avocate de Louis Poirson.
Mais c'était quelqu'un qui m'a paru assez correct. Enfin, pendant toute la procédure, d'ailleurs, il a toujours été très respectueux et très correct avec moi, ainsi qu'avec l'avocate qui l'a assisté sur le dossier sur Versailles. Moi, on m'avait parlé de lui comme quelqu'un de très athlétique. Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé certes assez costaud, mais pas. Je le voyais plus gros, en fait, plus bodybuildé, quoi, en fait, si vous voulez. Là, pour le coup, effectivement, ça m'a un peu surpris parce que c'est quelqu'un qui avait étranglé à main nue hein, les deux femmes, les deux victimes dans le dossier, et il faut une certaine force physique. Alors, même s'il dégageait une certaine force physique, il ne paraissait pas si impressionnant que ça, donc fallait quand même l'imaginer effectuer ces actes-là, et c'était pas spontanément quelque chose qu'on imaginait de lui quand on le voyait la première fois. C'est pas quelqu'un qui dissimulait, c'est pas quelqu'un qui revendiquait, c'était pas quelqu'un d'hableur, hein. C'était quelqu'un de plutôt discret, réservé, je vais pas dire timide, parce que faut pas exagérer, on n'est pas non plus dans de la timidité, mais réservé, taiseux, qui assumait ce qu'il avait fait généralement en tout domaine hein, d'ailleurs, mais qui ne revendiquait pas non plus, mais oui, assez authentique. Je pense, alors moi j'ai pas eu la sensation de quelqu'un qui mentait, qui camouflait une personnalité. À mon sens, il assumait complètement sa personnalité, enfin ce qu'il était quoi, et ses actes. Alors c'est quelqu'un qui répond à mes questions sans se défausser. C'est quelqu'un qui m'explique à sa façon les faits. C'est quelqu'un qui me parle essentiellement. On parle essentiellement du dossier. Je lui pose des questions également sur son passé, sur son histoire, comment il en est arrivé là. Il n'a absolument pas minimisé son implication. Il ne revendiquait pas non plus. Hein. On n'est pas dans quelqu'un qui revendique ses actes. Pour moi, c'est un client assez agréable et assez sympathique. Maintenant, quelqu'un qui était capable, à partir de quelque chose d'assez inattendu hein, parfois, on dirait maintenant péter les boulons, hein, c'est partir effectivement... orage total et de ne plus se contrôler dans ses actes. Si vous tombez à ce moment-là, vous tombez mal, quoi.
Plongé dans l'esprit des plus grands criminels. Ondelat raconte.
Côte B sur Europe 1.
Christophe Ondelat.
Pourquoi Louis Poirson a-t-il tué ces quatre femmes ? Aux juges, aux experts psychiatres et psychologues, il répète la même salade. Elle m'énervait, j'ai pété les plombs.
Ça dérape parce qu'il y en a une qui lui parle d'appeler les gendarmes parce qu'il est dans la cabane où il y a les outils hein, pour entretenir les tombes, etc.
Maître Guylaine Grimaud, avocate de Louis Poirson.
Bon, déjà, l'idée d'appeler les gendarmes, de repasser en justice, visiblement, ça le fait déraper. La personne n'aurait pas dit gendarme, peut-être que ça n'aurait pas déclenché ça, j'en sais rien, on peut pas savoir. Mais je dis pas que c'est à cause de ça, mais en tout cas, ça a été un élément déclencheur chez lui, de façon certaine. Donc, il y a eu une espèce de montée crescendo d'énervement, de dérapage, d'escalade psychologique qui l'a fait complètement déraper.
Putain, mais ces deux-là, elles vont me faire péter les plombs. Je veux pas laisser passer ça. Faut qu'elles la ferment. Avec ce que je vais leur mettre, elles vont plus l'ouvrir. Et bim pour l'une et bam pour l'autre.
Et en plus, ce qu'il a toujours dit, c'est que cette femme-là, ainsi que la mère, lui ont fait penser à sa mère. Et il y avait une relation avec sa mère qui avait été extrêmement compliquée. Quand il parle de sa mère, c'est qu'il lui reproche de ne pas l'avoir protégée comme une mère doit le faire vis-à-vis des coups du père. Parce que visiblement, le père était quelqu'un de très violent et la mère ne le protégeait pas, voire elle l'enfonçait parce que elle s'acharnait aussi sur lui en le criant dessus, en le méprisant. Et donc, effectivement, il avait un souvenir extrêmement difficile de sa mère, voire haineux, voire effectivement, ça l'a beaucoup poursuivi.
La vieille, là, on dirait ma mère, ma putain de daronne, elle m'a toujours détesté, elle m'a toujours gueulé dessus. Voilà, cette bonne femme, elle est vieille comme ma mère, voilà. Et puis elle crie, bordel. Je peux pas supporter ça, quoi. Elle va morfler.
Effectivement, il n'avait pas du tout encaissé ça. Il a toujours pris ça sur lui. Et en fait, parfois, ça ressortait quand il voyait, quand il était en face de personnes qui pouvaient ressembler ou lui faire penser de loin. Parce que parfois, c'est pas seulement parce que c'était une vieille dame, c'est parce que ça lui faisait penser de loin à un mot, une image comme ça qui lui fait penser à sa mère. On ne le maîtrisait pas.
Rapport d'enquête de personnalité. Louis Poirson est né à Madagascar. Ses parents ont ensuite déménagé à Strasbourg. Il est l'aîné de ses trois sœurs. Après une scolarité difficile, il obtient un CAP de marinier. Il est finalement embauché comme tailleur de pierre jusqu'en 2000. Sur le plan affectif, Louis Poirson déclare avoir été maltraité par ses parents, battu régulièrement par son père durant l'enfance. Il qualifie ses parents d'abrutis, parlant d'eux en termes haineux.
Quand il parle de sa mère, il dit « il ne m'a jamais aimé ». Quand mon père était méchant avec moi, elle ne m'a jamais défendu. Et il dit quelque chose que j'ai trouvé d'une authenticité pathétique. Il dit « elle n'a jamais mis ma photo sur le buffet de la salle à manger ». Vous voyez, c'est très lourd. Enfin, ça a du sens, ce qu'il disait. Le père, il est violent, brusque. Il ne boit pas, mais il est trop strict. Ma mère, elle ne m'a jamais aimée. Elle a toujours laissé faire le père. Elle ne s'est jamais mise au milieu pour me défendre. Elle ne m'a jamais consolée.
Moi, mes parents, j'ai souvent envie de les tuer. Je l'ai pas fait, mais... Bon, promis, le jour où ils mourront, j'irai à leur enterrement parce que ça me fera une sortie, c'est tout. Et puis tu sais quoi? Je boirai du champagne sur leur tombe. Alors si je pouvais les zigouiller, ça serait pas mal.
Je crois pas que ce soit vrai. Parce que je crois qu'il aurait été content qu'il soit mort, mais pas que ce soit lui qui l'ait tué. Parce qu'il ajoute, mais j'ai peur de mon père et j'ai du respect pour lui. Donc vous voyez, j'ai souvent eu envie de tuer mes parents, c'était une formule toute faite qui ne correspondait pas vraiment à son désir profond de les tuer. De les voir morts peut-être, mais pas de les tuer. Alors, je lui dis, mais ça va être un enterrement religieux, oui. Mais je lui dis, vous êtes croyant? Il dit, oui, je vais à la messe. Je lui dis, vous allez à la messe, là, à la prison? Oui, je vais à la messe. Je lui dis, comment, en étant croyant et pratiquant, vous pouvez avoir violé des tas de femmes, en avoir tué d'autres, etc.? Et il me répond, mais sincèrement, mais on peut pas. Mais je lui dis, mais vous faites comment alors avec votre conscience? Et ben, il me dit, on peut pas faire avec. Alors il dit, j'ai oblitéré. Il arrive à s'extraire de tout ce qui va pas. Donc ses souvenirs de femmes, ça a dû être affreux. Tuer ses femmes, les enterrer, ça a dû être des séquences épouvantables. Il a évacué. Quand il parle de ses sœurs, la première, il dit, elle a des enfants et elle fout rien. La deuxième, c'est celle qui est morte dans un accident de voiture. Celle-là, il l'a idéalisée. Il l'a idéalisée parce que qu'elle était plus jeune que lui, elle était gentille. C'était une image féminine positive. Mais elle est morte, elle était jeune. Hein. Elle avait pas 20 ans, je crois. Donc cette image-là, il l'a complètement idéalisée. Donc c'était dans un système défensif dichotomique par rapport à la mauvaise image de sa mère. Chantal, la femme avec laquelle il a vécu lorsqu'il est sorti la première fois de prison, c'était aussi une belle image de la mère, parce qu'elle était plus âgée, elle a 15 ans de plus que lui, et qu'elle avait eu 6 filles, et qu'elle a dû le materner, être gentille avec lui. Elle lui écrivait en prison, elle a été gentille avec lui. C'était aussi une belle image de la femme et de la mère. Mais elle l'a trompé. Et c'est à la suite, en ayant appris qu'il l'avait trompé, qu'il est passé à l'acte sur l'une des victimes.
Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Bornstein et Coutançon. Loué Poirson présente deux traits de personnalité. D'une part, il s'agit d'un sujet réservé, rétracté, un peu replié sur lui-même, exprimant peu d'émotions, sur fond d'une petite enfance qu'il a vécue comme écrasée par son père, avec des images négatives. D'autre part, il existe chez Louis Poirson une inhibition dans son rapport aux femmes, avec un malaise dans le champ relationnel face à ces dernières, et à l'arrière-plan, une dimension de rage et de haine à leur encontre.
Alors il a regretté la mort de ces quatre femmes, il s'en fichait royalement. Il regrettait, parce que ça lui a provoqué des ennuis. Il regrettait pour lui, mais pas pour elle. Bon, moi j'ai écrit, il n'avait nul remords, repentir, culpabilité ou indignité. Ils ne les connaissaient pas. Elles n'ont eu comme fonction que de faire passer sa colère qui s'est apaisée après les actes.
Europe 1.
Ondelat raconte. Côte B. Christophe Ondelat.
Qu'y a-t-il donc dans la tête du tailleur de pierre d'Évreux ? Louis Poirson est un tueur en série. Il est jugé depuis hier devant la cour d'assises de l'Eure pour les meurtres de deux femmes. Il les a tuées parce qu'elles l'avaient surpris en train de détériorer des tombes dans un cimetière pour chiens. Il a déjà été condamné à deux reprises dans les années 80 et 90 pour des viols et des enlèvements. Et il devra comparaître à nouveau dans quelques temps pour un autre viol et pour deux autres meurtres.
Déjà, il reconnaît tout, ce qui est déjà un grand pas, hein, parce que quand vous avez quelqu'un qui reconnaît rien, même l'évidence, c'est une autre façon de préparer un dossier.
Maître Guylaine Grimaud, avocate de Louis Poirson.
Là, il reconnaît tout, donc en fait, il savait très bien qu'il allait être déclaré coupable, il n'y avait pas de souci sur ce point-là. Le but à la base, c'était essayer de faire que, bah, effectivement, il soit jugé non pas comme un monstre, mais comme un homme, parce que ça reste un homme, et puis effectivement limiter au maximum aux assises, limiter la peine qui aurait été demandée. Lors du procès, son attitude à Louis Poirson a été correct, hein, parce qu'il est extrêmement courtois et poli avec le président, avec les intervenants, c'est-à-dire l'avocat de partie civile, madame le procureur, enfin, madame l'avocat général. Il n'y a jamais eu de difficulté non plus, donc il n'a pas forcément fait plus d'efforts que ça.
Roland Coutenceau, psychiatre des hôpitaux, a été nommé pour suivre cette affaire.
Alors, on le voit aux assises, il est hyper présent, il coupe le président, il est surprenant.
Oui, parce qu'au fond, on peut dire que c'est un sujet normalement intelligent, même s'il a un niveau scolaire assez modeste. Et dans le contact, il a une certaine présence, c'est un homme qui est indépendant, qui a une certaine force mentale, c'est quelqu'un qui se déprime rarement, même en prison. Et donc, au fond, il est soucieux de dire ou de corriger, il est soucieux de présenter un petit peu son acte à sa façon.
Et il avoue.
Oui, il avoue, il donne nombre d'éléments d'explication, il décrit son irritation contre les gens en général, ceux qui mettent du pognon, comme il dit, dans des tombes pour chiens. C'est quelqu'un qui part au plus pressé, au fond. On peut dire que sur le plan criminologique, ses traits de caractère extrêmement saillants. En fond, une structure de personnalité hors norme. C'est-à-dire dans ceux qui ont des troubles de la personnalité, ce sujet a une force destructrice en cas de conflit qui est hors norme.
Il essayait d'expliquer ce que lui-même n'arrivait pas tellement à expliquer, parce que je pense que c'est pas forcément facile d'expliquer ce qui se passe dans sa propre tête. Hein. Je suis pas sûr qu'il avait une vraie confiance dans les psychologues et dans les psychiatres non plus. Donc il essayait d'expliquer ce qui s'était passé à l'époque avec une explication assez basique quand même, mais qui n'était pas recherchée, mais ce qui pour lui suffisait. Donc c'était compliqué de lui essayer de lui faire ce... réfléchir sur ses propres actes véritablement, même si je pense quelque part il y a réfléchi, mais bon, depuis, mais à l'époque c'était peut-être compliqué de réfléchir dessus. Mais il reconnaissait que c'était des infractions et que c'était terrible ce qu'il avait fait.
Qu'est-ce qui explique le passage à l'acte qui nous occupe ici ? Il y a un conflit avec une personne, mais un conflit pas grave. Au fond, il a peur d'être dénoncé parce que quelqu'un l'a vu en train de taper sur des tombes pour chiens. Donc c'est quand même relativement banal, mais que ce soit transgressif. Et troisième élément que je vois en criminologie, c'est que c'est un sujet qui a fait une longue peine et donc qui est dans un moment de sa vie où il se dit « tout, mais pas revenir en prison ». Et donc, ça le détermine à être particulièrement radical, on peut dire, face à toute situation qui pourrait amener une nouvelle incarcération. C'est ce cocktail qui a fait le passage à l'acte.
Mais dans ces passages à l'acte homicide, il n'y a rien.
Michel Agrapard-Delmas, experte psychologue.
Il n'y a pas de dimension sexuelle, il n'y a pas de gain financier, il n'y a pas de satisfaction morale. Il n'y a pas le plaisir de tuer, mais il est à l'état brut. Et il ne mentalise pas, il ne réfléchit pas. Il passe à l'acte parce qu'il est en colère et que ça fait passer sa colère de tuer quelqu'un qui l'a énervé.
Moi, je ne crois pas qu'il tue par énervement. Parce que si on tue par énervement, ça arrive une fois dans sa vie.
Commandant Daniel Roussette, section de recherche de Versailles.
Là, il y a quatre, ça voudrait dire qu'il y a trois énervements, on tue trois fois. Pour revenir à la jeune femme agressée, elle nous dira quand même
que pour elle, elle avait eu le sentiment qu'elle avait été épiée. Et d'ailleurs, dans les constatations des enquêteurs, ils avaient repéré sur place, quand ils sont allés sur place, qu'il y avait eu un lieu de surveillance. Il y avait un poste de surveillance qui avait été établi par celui qui l'a agressé. Donc là encore, on se rend compte que Louis Poisson a surveillé sa victime pour aller l'agresser au bon moment, au moment opportun. Donc on voit quand même qu'il y a un ressort sexuel derrière les agressions, au moins pour celle-là, mais ça nous laisse douter pour les autres quand même. Alors pour moi, Louis Poisson est un psychopathe. Contrairement à ce qu'il veut laisser croire, tous les meurtres qu'il a commis ne sont pas dus à des coïncidences, ce ne sont pas des accidents. Il a pour moi chassé, ciblé ses victimes pour leur faire un guet-apens et les assassiner. C'est pas par hasard qu'il a tué 4 femmes et qu'une des femmes en a réchappé. Ça peut pas être des coïncidences. Et l'enquête n'a jamais permis de déterminer s'il y avait eu des agissements, des violences sexuelles sur nos victimes. Mais on peut toujours le penser puisque ça n'a jamais pu être établi par rapport à l'état des corps.
Mesdames et messieurs, la cour. Lorsqu'on demande à Louis Poisson s'il a quelque chose à ajouter, il se lève et il dit « Je m'excuse. Je peux pas vous demander pardon parce que le pardon, on me l'accordera pas. Mais je peux vous dire que cette douleur, elle reste en moi. J'ai reconnu les faits. On m'a reproché mon cynisme et tout ça, mais on m'a appris à cacher mes émotions. » La prison, c'est une meute de loups. On doit cacher ses émotions, sinon on est mort. J'accepterai la peine de prison. Mais ça compensera pas votre douleur. Verdict. Pour le double meurtre de Jeanne et Monique Villain, Louis Poisson prend perpétuité. 3 ans plus tard à Versailles, Louis Poisson est de nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais cette fois, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans pour le meurtre de Charlotte Berson et de Lucie Femme.
Alors, dans un coin de ma tête, il y a peut-être d'autres femmes qui ont été tuées, au moins une d'entre elles. En fait, puisque je me souviens que lorsque nous sommes allés consulter le dossier d'assises à Strasbourg, nous avons vu que dans la fouille de Louis Poisson, dans son portefeuille, les premiers enquêteurs avaient trouvé la photo d'une femme dénudée dans la nature avec l'air horrifié. On n'a jamais pu identifier cette femme. Et pour nous, on a quand même une petite frustration de ce point de vue-là, parce qu'on peut se dire que c'est peut-être une de ses premières victimes que personne n'a jamais su identifier.
Oui, je pense qu'il a. Il n'est pas improbable qu'il ait pu tuer d'autres fois. Mais peut-être pas. On ne saura jamais.
La photo de cette femme retrouvée dans le portefeuille de Louis Poisson n'a toujours pas livré ses secrets. Les gendarmes ne sont pas parvenus à identifier cette femme. C'était On-delà raconte Côte B, rédaction en chef Guillaume Maury, enquête Vincent Deby, réalisation Boris Paczynski. Ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin en podcast.
Retrouvez On-delà raconte Côte B tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.